Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Henri Fredge ben Janet Rachel Zichrono Livracha. Alors, ici à la demande presque générale, nous venons de parler de la sorcellerie et des démons. Sur ce, j'ai demandé qu'on m'amène la Gemara à traiter Brachot, page 6. 6a. Tania, c'est une braque, un enseignement du temps des Tanaïm, donc 1er, 2e siècle de l'ère chrétienne. Abba Binyamin Omer, dit Abba Binyamin, il m'allait nitna reshut l'ain lirot. Si avait été donné l'autorisation aux yeux de voir. En kolbreya yachwal amod mitna mazikin. Aucune créature peut survivre aux mazikin. Mazikin, ce sont les démons. Donc ils sont là, mais bon, Hachem, on ne les voit pas. Amar Abaye, a dit Abaye, et nous ne fiche minan, ils sont plus nombreux que nous. Vekaima alan ke kisla le ugya. Ils nous entourent comme un sillon autour de l'arbre. Vous savez, quand à l'époque ils avaient planté un arbre, ils faisaient autour une sorte de monticule comme ça, circulaire, autour de l'arbre, pour pouvoir mettre de l'eau dedans. Donc autour de nous, tu as comme ça une sorte de. Autour de toi, un cercle. Plein de démons. Amar Ravuna, Adi Ravuna, Kol Chal Vechal Minan Alpha Mismale Verevata Mimine. Chacun de nous, il en a 1000 sur sa gauche et 10 000 sur sa droite.
On est bien.
On est bien. On est très bien. Amai Rava, Amar Rava, Adi Rava. Hay Dorka, cette pression d'Ave Bekala. Qu'il y a lors du Kala. Qu'est-ce que le Kala ? Va nous dire Rashi. Pamim shebnei adam yoshvim revachim beyom haShabbat shebayin mishmo adrasha vedome lahem ki yoshvim drukim. Kala, c'est le shiur du Rav. Eh bien, un cours du Rav Shabbat. Et là, on vient écouter. Et il y a de la place, mais ils sont serrés. On est serrés. En fait, on n'est pas serrés. Pourquoi on est serrés ? On se sent serrés. Parce que tu en as 10 000 à gauche et enfin 1 000 à gauche et 10 000 à droite qui prennent la place. Donc ça sert. Je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir une petite parenthèse. Plus loin que Mara, elle va dire Agra de Kala Dorka. Le mérite de celui qui va au Kala, qui vient à un shiur, un cours de Torah, c'est Dorka. C'est que il est pressé, il est serré. On parle de ceux qui venaient au cours et ne comprenaient rien. Beaucoup de gens venaient, il y avait les cours des grands Tanaïm, tout ça, ils venaient par milliers écouter, ne comprenaient rien de ce qui se passait, mais ils avaient un mérite, quoi, qui se serrait. Ça, c'est le sens simple. Le Gaon de Vilna, il dit Agra de Kala Dorka. Agra, c'est le mérite du Kala, de ce shiur-là qui s'appelle Kala, ce cours qui s'appelle Kala. Dorka, le fait d'être pressurisé, d'être pressé. Kala signifie aussi, en hébreu, Kala signifie la fin. Il dit, le Gaon de Vilna, le mérite de la fin des temps, c'est la pression. Avant que Moshé revienne, comme un accouchement, il y a la pression. Alors, quand ça va mal dans la vie, on pouvait dire, ça va, tout est normal, on est en phase de fin et c'est la pression. On ferme la parenthèse. Donc, d'où vient cette pression qu'il y a dans ces cours de Torah ? Des démons. Hanimani des Rabbanan, ces habits des sages d'Israël, des balous qui s'usent rapidement, mais choufia didhu. Ça vient du fait qu'eux se frottent aux habits sans cesse. Oui, avrechim, toujours les habits d'avrechim, toujours un peu comme ça. Ça reste neuf une semaine, après c'est plus neuf. Ça, très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de démons autour qui se frottent au Tamil Chachami, mais l'habit ne supporte pas longtemps. Hanikare de menaf kfan minhayu hay minayu. Les pieds qui se cognent. Tu marches pieds nus dans ta chambre, et tu donnes un coup dans le pied de la table, ou dans le coin du lit, ou dans le coin de l'armoire. C'est idiot. Tu gères tes pieds. Tout coup, t'as un qui parle comme ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Pas normal. Il dit, c'est un démon, tac, il t'a fait un croche-patte comme ça, tric, pour que tu te reçois un petit coup, ou un gros coup, chassé shalom, du meuble. Alors il dit, ça vient d'eux. Mande bae le medalo, celui qui veut voir s'il y en a chez lui, la te kitma, ni halak, il amène des cendres, qui mettent autour de son lit, et le matin il verra des traces de pattes de coq. Tentez le coup, vous verrez qu'il n'y a pas de démon à l'Eshiva, Baruch Hashem. Haman de Bae, les Merzines, ceux qui veulent le voir, je vous demande de ne pas le faire parce que c'est extrêmement dangereux. Litishiliata de Shunrata Uchmeta, qu'il amène un placenta d'une chatte noire, fille d'une chatte noire aînée. Fille d'une chatte aînée.
Il faut trouver.
Placenta d'une chatte noire aînée, fille d'une chatte noire aînée, fille d'une aînée. Le brûlé.
C'est quoi le placenta ?
Placenta, c'est quand la femme est la couche ou quand le chat est la couche, il y a le bébé qui sort. À côté, il y a aussi une sorte de. Chez la femme, c'est un truc grand comme ça. C'est de là que sort le cordon ombilical, c'est par là qu'il se nourrit. Alors, cela, il faut le brûler. Après, une fois que ça devient une masse noire comme ça, brûler le centre, tu le frottes, ça en fait de la poudre, et t'en mets dans les yeux, et tu les vois. Et il faut prendre cette poudre-là, la mettre dans une éprouvette, d'accord, une petite bouteille, qu'on ferme avec un bouchon de fer. Cette poudre-là, on ne veut pas laisser comme ça, parce qu'on a peur qu'il vole ça. Vous allez la Gemara. Ouais. Et s'ils volent ça, ça peut être dangereux pour nous. Donc pour pas que eux, les démons, ils volent ça, il faut mettre cette poudre-là dans une petite bouteille qu'on ferme avec un tampon de fer. Rabbi Barabai, le fils de Abai, il s'appelait Rabbi Bibi, il a fait comme ça. Pour voir, il voulait voir, c'est sympa, je vais regarder à quoi ça ressemble, et il a vu les démons, et il a failli passer. Voir un démon, normalement c'est une crise cardiaque. C'est terrible. Ça se peut que les gens qui ont une crise cardiaque, ça arrive des fois dans des endroits impurs, dans les toilettes, tout ça, comme ça, ça se peut que du coup un démon s'est présenté à eux, et il n'y a pas tenu le coup. Alors Bibi, il est tombé malade, très gravement, et mourir, et les sages d'Israël ont prié pour lui, et il a guéri. Mais nous, qu'on n'a pas des sages d'Israël, qu'on n'est pas le fils de Abaye, il ne faut pas faire ça. Est-ce qu'il est permis d'avoir recours aux démons ? Oui. Shulchan Aruch, Yoredea, peut-être que je vous cite celle-là dedans, ça vaut la peine. Quelqu'un s'est retrouvé un Yoredea bête ?
Pour voir ça, vous avez quoi par rapport aux pattes ?
On met autour de lui des cendres, et le matin, on voit des traces de pattes, ça vient d'eux. Mais beaucoup de gens ont fait ça, ils n'ont jamais rien vu. Donc ils sont pareils. Il n'y a pas de démon, Baruch Hashem. On a le Shulchan Aruch, ça vaut la peine un jour que vous étudiez, quand vous serez bien étudié, les lois de sorcellerie, un chapitre entier. Super intéressant. Je me souviens bien, ce Kouf Ein Tet. Voilà, c'est bien cela. Chapitre 179. Alors là-bas, il parle des démons. Voilà. Alinéa 16. Faire des actions au moyen des démons est interdit. Et il y a un avis qui l'autorise. Il y a un avis qui autorise de leur demander des choses. Par exemple, si on a été volé. Autre chose du même type. Et si on les conjure au moyen des noms de Dieu, tout est permis. Bon, moi je ne sais pas comment on fait ça, mais il semblerait que si, bon, d'abord il faut mettre en contact avec eux. Alors tu n'as pas le droit de faire des actions au moyen. Dis-lui, va me faire des emplettes, tu n'as pas le droit. Mais si par exemple tu as été volé, tu peux demander qui est le voleur, tu peux leur demander. Et si tu utilises maintenant, je te conjure au nom de Dieu, et tu dis le nom de Dieu, de me faire ci, ça et ça, alors on a le droit de le faire. Mais il conclut, néanmoins, la majorité de ceux qui ont eu des affaires avec eux ne finissent pas en bon état. Donc on ne joue pas avec ça. Donc ça, c'est le Shulchan Aruch. Il y a une légende qui circule comme quoi Rachi aurait éliminé tous les démons de France. J'ai beaucoup recherché, jamais retrouvé ce truc-là écrit. Donc aucun bouquin sérieux, je l'ai vu écrit. Il y a un logiciel aujourd'hui en Israël de plus de 80 000 livres. Personne ne parle de cela. À mon avis, c'est une légende. Je ne sais pas comment Rachi aurait eu la force de faire une chose pareille. Il y a des histoires dans le Talmud, beaucoup d'histoires, avec des... Il y avait un qui s'appelait Yosef Shida, Yosef le démon, d'accord. Il était au service des Chachamim, il allait, il revenait, il y a beaucoup de... Ça arrive, c'est des choses qui se faisaient. Par exemple, une fois, il y avait un rabbin, ou un autre qui vient, et le rabbin lui parle, et l'autre ne répond pas. Ah, t'es un de ceux qu'on créé... Non, je confonds, excuse-moi, c'est une autre histoire. Ça, c'est quelqu'un qui a été créé. Les sages d'Israël pouvaient créer des êtres humains. Le golem Colmar de Prague l'a fait, mais les sages d'Israël, dans l'époque du Talmud, ils le faisaient beaucoup. On dit même que c'est écrit quelque part qu'un sage d'Israël qui était incapable de créer un être humain ou d'arrêter la lune et le soleil dans leur course, son nom n'apparaît pas nominativement dans le Talmud. On dira ce rabbin, on ne dira pas qui. Si son nom apparaît, il est au moins capable de faire ça. Alors il est venu, je crois que c'était rabbin, le monsieur il vient, le rabbin lui parle, et l'autre il répond pas. Réponds-moi, il répond pas. Ah, je comprends, t'es un de ceux que nos amis ont créé. Il y avait deux rabbins qui créaient tous les veilles de Shabbat un mouton. Pour Shabbat, ils l'égorgeaient. Alors il y a une question dans la lacha, le Rav Chida il parle, est-ce que quelqu'un qui a tué un type qui a été créé comme ça, est-ce qu'il est assassin? Ou si on a égorgé un animal, est-ce qu'on doit faire la bracha ou pas? On a créé, après tu l'égorges. Est-ce que c'est sur aussi l'animal créé aussi de ce type-là? Bon, revenons sur les démons. Qu'est-ce qu'on a encore à dire là-dessus?
Il faudrait créer quelqu'un même à leurs images, par exemple des clones, je sais pas quoi, ou juste créer.
Je sais pas quelle tête ils avaient ces gens-là. Mais ils pouvaient créer. Ils peuvent parler. Ils ont pas la parole. Donc ils peuvent faire beaucoup de choses, mais ils n'ont pas la parole. Que Dieu peut donner la parole à un être.
Il n'y a pas de Neshama.
J'imagine qu'il n'y a pas de Neshama. Neshama, même Ruach. Ruach, c'est la parole. Ruach, même elle est là.
Il est avec quoi?
Il a mangé, à donner à manger, comme un chien. Tu lui donnes à manger. Il y avait un Nefesh. Nefesh, mais pas Ruach, Neshama. Il y a trois parties d'âme chez nous. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est la partie animale, ce qui gère ton corps, tout ça. Chez les jeunes gens, jusqu'à 13 ans, il n'y a que Nefesh. À 20 ans, à 13 ans vient le rouar, à 20 ans vient la neshama. C'est vrai qu'avant 20 ans, on n'est pas trop intelligent. Hein? J'ignore, je peux se reproduire. J'ignore.
Et le tselem, il est entre quelle partie?
C'est au-dessus. Bon, on n'est pas des kabbalistes. Et on revient sur les démons. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur les démons?
Il y avait un rab qui avait créé des fidèlettes.
Non, pas créé ça. Quand on... Chassé Shalom, quand on fait des péchés, surtout au niveau sexuel, on crée des démons. On crée des forces malfaisantes qui, après, se vengent sur nous.
Quand on avait raconté, c'était qu'il avait fait tout comme le truc avec le bouchon en fer. Il ouvrait, il refermait, à chaque fois c'était un démon, ils ont voulu l'attaquer, ils ont enchaîné avec une chaîne, il a écrit le nom de Dieu dessus pour pas qu'il la casse.
Je connais pas. Une histoire qui ressemble avec Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il a... attrapé le roi des démons, s'appelait Hashmedai. Il est mort, on dit qu'il est mort il y a environ 900 ans, quelque chose comme ça. Il y a un autre roi des démons aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup d'histoires. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins... Je sais pas, dans le temps, c'est beaucoup plus courant. On entend des histoires de démons, tout ça. Vous avez grand-mère, tout ça, en Afrique du Nord, vous n'avez pas entendu? C'est extrêmement courant. Extrêmement courant.
Vous avez dit que les femmes dans la rue, elles ont plein de démons autour d'elles.
Quand on fait un péché, on crée une force malfaisante. Alors, est-ce que c'est les mêmes démons dont parle Gemara qui ont des pattes de coq? Je ne sais pas. Mais on crée une force malfaisante, surtout quand on fait des péchés sexuels. Pourquoi? Parce que quand tu donnes de la semence, alors tu donnes une force qui crée la vie. Quand cette force qui crée la vie, elle n'a pas de corps à créer. Lorsque tu es renaissant avec ta femme et tu crées un enfant, tu as créé un enfant. Là, tu as été parti, c'est parti dans le niet, dans rien. D'accord? Dans ce cas-là, cette semence-là, donc, elle crée néanmoins un être sans corps. Et il est malfaisant. Il t'en veut, parce que tu l'as créé sans corps. Donc il veut se venger. Pour cela, ici, on a une très bonne coutume ici à Yerushalayim, que lorsque quelqu'un est enterré, s'il est de sexe mâle, le défunt, on interdit, on annonce, nous interdisons à la descendance du défunt de le suivre à la tombe. On amène le corps, on fait l'oraison funèbre, après on amène le corps à la tombe. Tout le monde, tu as des gens qui l'amènent de France, etc. On dit non, stop, on interdit la descendance. Ils sont furieux parce qu'on a fait tout le voyage, maintenant on ne peut même pas enterrer notre père, etc. Le frère, ça va. Les autres membres de la famille qui sont proches parents, ça va. Mais la descendance, ça ne va pas. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe ? Quand quelqu'un il a fait des semences dans sa vie ou des péchés sexuels, il a créé toutes sortes de démons. Des fois des dizaines de milliers de démons qui l'attendent. Tant qu'il était vivant, on ne pouvait rien faire. Maintenant qu'il est mort, on va se venger. D'accord ? Et il attend pour lui sauter dessus. Dès qu'on met dans la tombe, ils vont le déchiqueter en petits morceaux. Son âme. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit qu'on interdit la descendance, et là on pense quoi ? Quelle descendance ? La descendance physique, les enfants qui sont là, garçons et filles, la descendance métaphysique. Tous les démons qu'il a créés, on les interdit de suivre le corps.
Pourquoi ne pas préciser ?
Hein ? Pourquoi préciser ?
Pour que ses enfants aient pu assister à son temps. Qu'est-ce
qu'il... Ah, qu'on dise que vous ! Ah, on ne peut pas, pourquoi nous et pas eux ? Si ses enfants suivent, nous on suit aussi. C'est logique. C'est logique. On ne peut pas décider comme ça, tu dis. Si tu dis que personne ne suit, personne ne suit. Il faut expliquer. Si les parents, les enfants sont dit, ils sont furieux, alors on laisse quand même un truc à faire. On leur dit, alors allez à la tombe, déjà, et que le corps vienne, mais ne suivez pas le corps. C'est un truc, c'est une coutume à Yerushalayim à pratiquer, qui est très bien, et si on peut la faire dans les autres pays, ça serait extrêmement bien, pour le bien du défunt. Si on veut tchouva, on répare tout. Mais il faut faire tchouva.
Donc,
si on fait tchouva, aucun. C'est quelqu'un qui fait tchouva avant de mourir et qui a fait une bonne tchouva, tout le monde peut le suivre, aucun problème.
Donc c'est que dans le cas où quelqu'un n'habitait pas dans la Torah, on ne peut pas la descendance, on ne peut pas l'accompagner.
Je peux pas savoir.
Comment savoir qu'il a fait tchouva, suffisamment de tchouva et qui, quoi, comment ? Qui sait à quel point on doit faire tchouva sur ces péchés-là ?
Alors donc, du coup, on ferme les portes ?
Voilà. Pas si grave, il est venu. Heureusement, il faut le voir enterrer, le mettre dans la terre, c'est tellement important.
J'ai pas vraiment saisi le lien avec la descendance.
Chacun a deux descendances. Une descendance des enfants qu'il a créés avec sa femme, et une descendance des démons qu'il a créés avec sa semence en vin ou semence qu'il a mise chez des femmes qui étaient interdites. La semence spirituelle, elle, va se venger de lui. La majorité des malheurs qui nous touchent durant la vie, ça provient de ça. Et c'est pas dans la vie, c'est après la vie. Des fois, ils n'ont pas le droit de nous faire du mal tant qu'on est vivant. On réserve ça pour après. Alors, pour préserver le défunt, pour pas qu'il soit trop attaqué, on interdit à cette descendance de venir attaquer, On dit, allez, personne ne le suit, terminé. Ça ira dans la tombe tranquille.
Pour pas qu'eux, ils viennent...
Exactement.
Pourquoi ils ont été créés, et surtout quand ils ont été créés ? Pourquoi Dieu l'a créé ?
Les démons ont été créés, je ne sais plus quel jour de la création.
J'avais entendu que c'était entre Shabbat et...
Ça se peut, je ne me souviens plus. À un certain moment, Dieu a créé. Maintenant, pourquoi Dieu a créé cela ? Dieu a créé le mal, il a créé le mal, il a créé des forces de mal, et il a créé beaucoup de mal. Tu vois, on parle maintenant de 1000, de 10 000, à gauche et à droite. Pourquoi autant ? Parce que la vérité, elle est extrêmement attirante. Et s'il y avait autant de vérité que de mal dans le monde, personne ne choisirait le mal. Le mal, qu'est-ce qu'il propose ? Du mensonge. Qui veut du mensonge ? Mensonge, c'est menteur, c'est rien, c'est faux. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem pour équilibrer le libre-arbitre ? Il met très peu de vérité pour beaucoup, beaucoup de mensonges. Demande aux gens dans la vie, les gens sérieux, est-ce que tu penses que le cinéma, c'est quelque chose de bien, un but en soi dans la vie ? Non. Et la plage ? Non plus. Alors, c'est quoi les vrais buts ? Ben, les trucs sérieux, quoi. Pourquoi je vis ? Savoir être quelqu'un de bien, etc. Alors, regarde dans la rue maintenant. Combien t'as de cinéma, combien t'as de plages, combien t'as de yeshivot ou d'endroits sérieux où on réfléchit sur le but de la vie, comment s'améliorer. Il n'y a pas photo, hein. Pourquoi ? Il faut bien donner quelque chose au mal. On lui donne du nombre. Beaucoup de cinéma, beaucoup de plages, beaucoup de pubs, beaucoup d'internet, beaucoup de petites boîtes iPhone, ça, chez Michemort. Et voilà. Et le tour est fait. Donc Dieu a créé tous ces êtres-là pour qu'il y ait place au mal dans le monde. Une grande place. Très bientôt, notre Hachem, elle va disparaître. Ah, tu peux le... Quoi d'autre sur les démons ? Sorcellerie ! dans quelques minutes. La sorcellerie est une chose qui est interdite de faire. Elle fonctionne. Les sages d'Israël connaissaient la sorcellerie parce qu'ils devaient être capables d'être juges au Sanhédrin, au tribunal de grande instance, et il fallait être capable de pouvoir juger un sorcier. Or, si tu ne connais pas toute la sorcellerie, comment tu peux juger un sorcier? Donc ils connaissaient tout cela. Maintenant, la Gemara raconte, par exemple, dans Houlin, il y avait un grand rabbin, le rabbin Hanina, je me souviens bien, il y avait une sorcière qui voulait absolument l'ensorceler, elle voulait prendre de la terre de sous l'endroit où il se tenait. Elle peut rien faire, en od milvado. Il n'y a rien d'autre que Hachem. Celui qui est vraiment complètement imprégné que seul Dieu peut agir dans le monde, la sorcellerie n'a aucun pouvoir sur lui. On parle maintenant de sorcellerie de haut niveau. La sorcellerie de bas niveau, celle que font les marabouts en France, etc. Quelqu'un qui est chômeur, mitzvot, il n'a pas à avoir peur de cela. Il y avait une fois au sentier deux concurrents juifs, et un est allé prendre, a payé de l'argent à un marabout pour qu'il jette un sort sur son concurrent d'en face. Le lendemain, il vient le voir, le marabout lui dit « Prends ton argent, je ne veux pas. » Qu'est-ce qui se passe? C'est terrible, quoi. Ben, j'ai fait le truc et je l'ai vu tout à coup, il y avait un truc brillant ici, là, qui éclairait, ça m'a fait terroriser. C'est marqué que les tefilines de la tête, ça terrorise les peuples de la terre. Toi, tu vas avec ton tefiline comme ça à l'aéroport, personne part en courant, d'accord, c'est pas... Mon niveau spirituel, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Quelqu'un qui fait ses prières comme il faut, qui mange kasher, qui fait les brochot avant et après de manger, il fait Shabbat, c'est la kashrout, nida, etc., il n'a aucun souci à se faire de la sorcellerie. Non, les sorcelleries qui sont très très puissantes peuvent quand même arriver à toucher même des gens pratiquants. Là, il y a des choses à faire. Par exemple, on a mis sur le site une segula pour se marier. J'en ai parlé déjà ici, on traverse une mer, une rivière, etc. en disant des choses. Ça, c'est un truc, à la base, c'est contre la sorcellerie. C'est un truc qui arrête les sorts, les ensorcellements et envoûtements. Maintenant, c'est clair qu'il y a un Yetzer Hara. Je ne connais pas Baruch Hashem, mais du temps de la Gemara, c'était un Yetzer Hara terrible. Beaucoup, surtout chez les femmes, c'est écrit, elles adoraient faire ce genre de choses. Il y a des gens encore qui j'ai entendu qui aiment ce genre, ils achètent des grimoires, des machins, ils font des trucs comme ça. Surtout, il y aura un jugement, c'est clair. Quelqu'un qui a ensorcelé un autre et qui l'a empêché de faire des trucs, de réussir dans sa vie, de se marier, d'avoir des enfants et des trucs pareils. Surtout, il y aura un compte et c'est terrible, c'est terrible. C'est clair que...
Si un juif fait ça et...
Il doit réparer ce qu'il a fait. Il peut aller voir la personne qui l'a envoûté, il dit, écoute, à cause de moi que tu n'as jamais eu d'enfant, merhila. si le triple, il excuse, alors c'est bon. Encore faut-il qu'il excuse. Voilà, il faut se mettre vraiment à raplapla et...
Et juste, la Kabbalat Maasit qui est utilisée aujourd'hui,
alors, dans la Kabbalah, il y a une chose qui s'appelle la Kabbalah Maasit, c'est-à-dire utiliser des noms de Dieu pour faire des choses. C'est extrêmement interdit de faire, parce que nous ne sommes pas du tout au niveau d'utiliser les noms de Dieu. Et c'est écrit dans Avot, en précis Avot, « Deishtamesh betaga chalaf », celui qui utilise la couronne du roi, c'est le nom de Dieu, chalaf, il disparaît. C'est très dangereux, et un grand essai apparaît-il d'utiliser ça, une fois qu'on sait. On veut essayer au moins une fois, d'accord? J'ai un cousin qui lui a Kabbalah, qui m'a dit que son prof de Kabbalah, qui est un grand, il a des problèmes dans sa famille très graves. Parce que quand il était jeune, il n'a pas tenu le coup. Un grand Yetzer Hara, il a tenté le coup de faire un truc comme ça, et il a fait. Et ça a marché, mais il y a des factures terribles. De quel droit, petit moustique puant, tu utilises Dieu? C'est des conjurations. Tu conjures Hachem, t'obliges quelque part Hachem de faire des trucs. C'est pas normal. Mais ça existe. Je me souviens plus ce qu'il a fait.
Mais une personne qui va voir quelqu'un comme ça et elle voit que ça fonctionne, mais elle ne sait pas que c'est mauvais. Parce qu'il y a des personnes comme ça qui font payer et qui...
Il ne faut pas voir ce genre de personnes. Quelqu'un qui utilise les noms de Dieu pour faire des trucs, c'est des gens... C'est des truands.
Mais Hachem, il n'est pas obligé de faire ce qu'on lui demande. C'est lui qui décide ce que...
Il a mis en place un système qui fonctionne. La sorcellerie, ça fonctionne. Je sais pas, des fois, un pauvre misken, ça fonctionne. C'est un truc qui fonctionne. Ah, il est combiné contre aussi, d'accord, mais c'est Dieu a mis en place un système. Plus quelqu'un est sadique, moins il est, comme le cas de Rabbi Hanina que je vous ai dit, cette sorcière, elle voulait faire quelque chose, elle peut y aller, moi je suis intouchable, je suis proche de Dieu, il n'y a que Dieu. Quelqu'un avec ce niveau-là, ok. Il y a une autre histoire dans la Gemara, il y avait deux Chachamim qui étaient dans le bateau, et puis il y avait une sorcière qui voulait, mais faites-moi une place entre vous. Et ça va pas, une bonne femme en deux Chachamim, dégage. Elle a dit un nom, et le bateau s'est arrêté sur la rivière, il ne bougeait plus. Alors la Gemara, ils ont dit eux un nom, c'est, remis en route. Là, ils ont fait une bagarre de sorcellerie. Bon, ça existe, il y a des puissances. Aujourd'hui, c'est tout du tralala de très bas niveau. Utiliser les noms de Dieu, c'est absolument interdit. Très bientôt viendra Mashiach et on pourra le faire parce que Dieu veut le faire. Dieu a donné ça et il veut qu'on le fasse, mais il veut qu'on soit au niveau. On n'est pas au niveau. Mais les grands sages du Talmud, même dans Shulchan Aruch, c'est écrit, je l'ai raconté ça, dans le chapitre 404 du Shulchan Aruch, c'est écrit qu'on n'a pas le droit, Shabbat, de faire une téléportation. Comment c'est écrit? Kfisat Shem, le sceau du nom. Tu te rappelles, je vous ai même expliqué comment on fait, n'est-ce pas? Donc on rappelle ce nom-là, tac, on fait, on se retrouve, veille de Shabbat, tu vas dire bonjour à papa et maman à Paris, zoulou. Vous faites la biche, Shabbat Shalom, je rentre à l'Echiva, ciao, hop, tu reviens à Yerushalayim. C'est pratique.
On pourra se téléporter, par exemple.
Bien, mais bien sûr.
Non, mais Rav, c'est la biche à main, parce que le corps.
Le corps. T'es dématérialisé ici et rematérialisé là-bas.
C'est un jeu vidéo, quoi.
Je sais pas ce que c'est un jeu vidéo, tout. Ça marche. Alors, il y a des grands qui faisaient ça. Ouais, des grands, des très grands ont fait ça. Les gens du Talmud, voilà, le gars Nouvilain l'a proposé au Graf Potocki. Je racontais aussi ça. Je le rappelle, c'était Graf Potocki qui c'était un. Un graphe, c'est un comte, d'accord? Un comte polonais, jeune comte polonais, qui était attiré par le judaïsme et il s'est converti. Il vient d'une famille catholique de l'aristocratie polonaise. Donc, si ça se savait qu'il s'est converti au judaïsme, ça aurait été terrible. Alors, un beau jour, il a disparu de la circulation, il s'est converti, il habite dans un petit bled comme ça de juifs, un petit shtetl paumé dans la nature. Et un beau jour, il y avait des enfants qui jouait à la synagogue, et lui voulait étudier, et il énervait, alors il leur a crié dessus. Le papa vient, il dit, tu crois qu'on sait pas que t'es un converti? Fais attention ce que tu dis, je vais en parler à tout le monde. Et les gens ont su qu'il était converti. À la fin, c'est arrivé aux oreilles des autorités, la famille a appris cela, et c'était terrible, la honte de la honte, l'archouma version polonaise, comment notre fils s'est converti au judaïsme, et ils ont fait un ultimatum, ou tu te rétractes, tu te fais un chrétien de nouveau, ou au bûcher. Et elle dit, ben, pas de problème, au bûcher. La famille a laissé faire. Et il est mort à Kiddush Hashem, il a fait un très bon Kiddush Hashem. On dit que depuis ce moment-là, au niveau de la touma, de l'impureté qu'il y a sur les mains le matin quand on se lève, ça a beaucoup baissé. Ça fait un Kiddush Hashem, très grande lumière dans le monde. La veille de son exécution, le Gaon de Vilna est venu le voir, et lui a dit, si tu veux, on peut faire maintenant Kfisat Shem, on fait une téléportation, on disparaît les deux de la prison. Il dit non, j'ai une grande mission maintenant de que je peux faire Kiddush Hashem, pas faire mourir Kiddush Hashem, plutôt que d'utiliser maintenant les noms de Dieu pour éviter cela. Et le Gaon de Vilna a respecté, et effectivement, il a fait cette grande mitzvah. Le Rabbi Chaim Vital, donc c'est lui qui a écrit tous ces noms-là dans les livres de Kabbalah. Un jour, il habite à Jérusalem, il était d'origine de Damas, mais il habitait à Jérusalem à l'époque, et le sultan entendu un bruit de rivière sous l'esplanade du temple. Il y a une rivière qui passe là-bas, le Gihon, c'est là-bas qu'on sanctifiait les rois juifs. Les rois juifs, les rois d'Israël, s'est sanctifié près du Gihon, près de cette rivière-là. Le sultan lui a dit, c'est quoi ce bruit-là? Il a dit, je sais pas, écoute, tu as 24 heures, si tu ne me donnes pas la réponse, je te zigouille. Il a eu peur, il a fait Kutachem, il s'est retrouvé à Damas. Il est parti, hop. Son maître Rabbi Noir est venu en rêve, lui a dit, de quel droit tu utilises maintenant les noms de Dieu? On parle de Rabbi Chaim Vital, c'est le kabbaliste de tous les temps. De quel droit t'as eu l'audace de faire un truc pareil? Si déjà tu utilisais les noms de Dieu, t'aurais appelé un nom de Dieu pour que cette rivière sorte à l'extérieur et ma chair serait venue. Et il n'a pas fait, il s'est trompé. D'accord? Donc même des gens de très haut niveau, c'est pas facilement qu'on peut utiliser ça. Le Midrash dit que trois personnes ont utilisé cela. Yaakov Avinu, quand il est parti à Haran, il est revenu en Kfisat Shem. Eliezer, le serviteur d'Abraham. Et le troisième... Hein? Le troisième, qui c'était? Trop de mémoire. Ça reviendra. Hein? Abraham, non. Pas Kfisat Shem, non. Qu'est-ce que Kfisat Shem? Jacob, quand il est parti d'Israël pour aller, aller à Haran chez son futur beau-père Laban, après c'est rappelé quoi. Je suis passé par l'endroit du temple, l'endroit où mes ancêtres ont prié, Abraham, Israël, moi je ne me suis pas arrêté. Il est revenu pour venir en Israël, et là Dieu l'a fait faire un saut il s'est retrouvé directement ici. Mais très bientôt, dans Hachem, on sera tous prophètes, on sera bien plus aux côtés, parce qui va s'amuser à ces petits. Les petits enfants de 2 ans vont jouer à la téléportation, nous on sera dans des trucs beaucoup, beaucoup plus haut, mon cher ami, on sera bien. Voilà. Que faire pour la sorcellerie? J'ai entendu de gens qui s'occupaient de gens qui étaient ensorcelés. Il est bien de mettre des roses à la maison. D'acheter des roses, elles se fanent, elles absorbent. Elles absorbent la sorcellerie, elles se fanent très rapidement, il faut racheter des fois un budget rose.
Quand ils se fanent vite, ça veut dire qu'il y a
la... Ouais, ouais, ah. Ouais, ouais.
Vite, ça veut dire quoi,
ça?
Dans la journée ou...
Parce que ça, de toute façon, tout le monde au fleuriste, il voit, ça se tient en 4-5 jours, puis après quelques heures, boum, d'accord, c'est pas normal. Quoi d'autre, sorcellerie... Bon, écoute, Baruch HaShem. Hein, une fois, quelqu'un m'a envoyé je vous raconte une histoire jamais racontée encore. Un type, je crois que c'est un arabe, il écoutait mes cours, puis il m'écrivait de temps en temps. Puis un jour, il m'a envoyé un colis. Je regarde qui c'est, hein, tout ça, je vois le nom du type. Il était pas trop sympa, il était un peu sarcastique comme ça. Hein ? Non, pas dit un truc tout plat comme ça. Ouais, j'ai eu peur un moment. J'ai ouvert. Alors, le Rav Benham, il donne ça quand je descends de la Yeshiva. Bonjour, on descend de la Yeshiva. Et je parle dans un cours que d'un moustique. Un moustique peut rendre quelqu'un complètement fou. Ah, il avait écrit ça, il y avait un petit billet, un moustique, comme ça, pour rendre quelqu'un un truc comme ça. Et du coup, je vois devant un moustique. Comme ça, je tourne la tête, il est devant moi, comme ça. J'ouvre le paquet encore, je vois qu'il y avait une bague. Qu'est-ce que tu vois quand une bague, qu'est-ce que tu fais? Tu la mets. Je dis, jamais pas. Ça sent mauvais. J'ai pris tout ça, j'ai mis à la poubelle là, dehors. Bon, le moustique a disparu, et Baruch HaShem. Non, je pense qu'ils ont voulu faire un truc... Baruch HaShem, on est protégé. Vous connaissez ça, les trucs? Hein? Une bague en métal. Bague en métal comme ça. Hein? Je pense que vous voulez faire quelque chose. Tov, Baruch HaShem. En homme ilvado. Baruch HaShem. Si on est proche de HaShem, on a le Torah, on pratique comme il faut. Il n'y a ni avoir peur des démons, ni des sorciers, ni des sorcières. Les démons? On sait qu'ils ont des pattes de coq, c'est tout ce qu'on sait de leur tête. Mais il paraît que c'est affreux, comme je t'ai dit. Rabbi les a vus, il est tombé dans les pommes. Baruch HaShem.